Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors, pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là.
Vous vous sentez isolé en Afrique?
Mal compris, en tout cas.
Mal compris, mal aimé?
Mal aimé, ouais.
Une incompréhension qui menace très sérieusement la révolution burkinabé entamée 4 ans plus tôt par un quarteron de capitaines partageant le même rêve, celui de redonner leur dignité à leur peuple, celui de lui remettre le pouvoir et de lui redonner l'espoir. Seulement, en cette année 1987 qui commence, la confiance qui les rendait si forts, la complicité qui les mettait à l'abri de nombreux complots, des multiples tentatives de déstabilisation, ont quelque peu été entamées. La révolution, le rythme effréné auquel elle a été menée, l'austérité qui la caractérisait, ont visiblement émoussé la ferveur de certains acteurs. À cela, il faut ajouter les manigances de certains adversaires extérieurs qui ont trouvé des interlocuteurs à l'intérieur du système, dans les arcanes même du Conseil national de la Révolution, le CNR, l'organe suprême. Suite et fin aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara.
Il nous faudra faire en l'an 5 de notre révolution une année de bilan, une année de l'action idéologique et politique scientifiquement organisée. Oui, il nous faut ce bilan, les succès futurs de notre action politique dépendront de la justesse avec laquelle nous aurons résolu dans notre pays les questions organisationnelles et de l'orientation idéologique.
Il faut revoir les questions organisationnelles et idéologiques. En réalité, il s'agit de revoir la marche de cette révolution qui, depuis quelque temps, vit au rythme des discordes et avec en filigrane des rumeurs persistantes de coups d'État ponctués par les tracts les plus violents à l'endroit des uns et des autres acteurs. Commandant pharmacien Abdou Salam Kabore, membre du Conseil national de la Révolution, ancien ministre de la Santé.
Oui, ces tracts étaient produits par des jeunes étudiants que nous avions incorporés dans l'armée. Ces tracts, en substance, disaient que le président Sankara a dévié de la voie de la Révolution, que maintenant c'est le one-man show, etc., etc. Voilà, toutes choses qui pouvaient salir. Et puis, bon, on parlait de beaucoup dans les tracts. Et Sangara disait souvent pour rigoler que lorsqu'il y a un tract qui apparaît, chacun lit, entre les lits pour voir s'il n'y a pas son nom. S'il n'y a pas son nom, maintenant, il le lit de façon intéressée.
Sankara regarde parfois avec amusement ces duels de plumes trempées dans une encre de plus en plus empoisonnée, comme le disait le journaliste Sénène Andréa Mirado, grand ami de cette révolution. D'ailleurs, Sankara écrit parfois sous son nom, d'autres fois sous des pseudonymes divers. Pour lui, du choc des idées va surgir la vérité. Au-delà des débats idéologiques, les protagonistes de ces véritables querelles d'étudiants s'agacent de plus en plus les uns et les autres par diverses taquineries. Sankara le renégat, les débuts de la fin du fou, c'est le titre d'un des numéros de l'intrus. Un autre dit ceci, Thomas Sankara, un déséquilibré mental qui mène le pays à la ruine totale. Bref, le ton est de plus en plus dur et violent dans ces tracts qui prolifèrent. Blaise Compaoré n'est pas épargné non plus. Au-delà des syndicats qui sont désormais manipulés par chacune des factions, des multiples mouvements, institutions et organes qui ont proliféré dans le pays au cours des 4 ans, ce sont les attaques de plus en plus claires contre le chef de l'État d'un côté et de l'autre, son numéro 2, Blaise Compaoré, qui enfle. Mais en juillet 1987, après les discours de certains étudiants à la conférence nationale des étudiants qui se tient à Pau, la ville des paracommandos de Blaise Compaoré, discours dans lequel très clairement certains fustigent d'abord Valère Sommet, le ministre de l'Intérieur, qui sachant l'instrumentalisation faite par les autres factions des étudiants n'a pas fait le déplacement malgré la douce pression de Thomas Sankara, puis le chef de la révolution lui-même, sans que son nom soit une seule fois prononcé, les imprécateurs fustigent la confusion au sein du Conseil national de la Révolution, et réclame une clarification pour distinguer, je cite, « les vrais révolutionnaires des opportunistes ». Cette fois, le président du Faso doit sortir de son mutisme. Il faut agir. Il faut calmer les esprits. Dans son discours du 4 août, date anniversaire de la Révolution, il prêche la tolérance, le dialogue. Il réalise son autocritique et lance une idée.
Il s'agira pour les révolutionnaires de notre pays de conjuguer leurs efforts pour vaincre les tares et insuffisances que nous portons tous. L'unité des révolutionnaires est assurément une étape par laquelle il nous faut passer pour aller plus en avant dans l'exécution de la tâche d'organisation de l'avant-garde.
L'an 5 de la Révolution va être celle du bilan. Alouna Traoré, membre du CNR.
Nous qui étions à l'intérieur, à un certain moment, en 86-87, c'était le temps des redditions. Le PF a fait, à la date anniversaire de la Révolution, un discours poignant à Bobo Dioulasso qui témoignait qu'il ne fallait pas aller seul sur la colline, mais il faut aller avec tout le peuple. Quand ça ne va pas, c'est nous-mêmes qui avons échoué. Il faut revenir aux masses, vaincre avec elles et gagner de larges victoires. Nous sommes responsables de tout ce qui ne va pas. Il a fait son autocritique publique. Et 8 jours après, en principe, quand c'est un discours comme ça de taille, tout le monde le reprenait. Mais l'écho n'était pas ça. On s'est étonné comment un tel discours, d'une telle portée, d'une telle sincérité, rencontre un tel mur. Bon, c'était le début des contradictions.
L'exacerbation des antagonismes qui s'accentue entre autres par l'idée lancée dans ce discours de Bobo, l'idée de la création d'un parti.
Profitons des expériences des autres révolutions que l'histoire des peuples nous offre en enseignement. En particulier, tenons compte de l'expérience de ceux qui, comme nous et sont nombreux, ont dû se doter d'organisations diverses et unies, ou d'uniques organisations diverses.
Personne ne veut prononcer le mot « parti ». On évite soigneusement de le faire, même si chacun a compris que l'organisation dont on parle est celle-là. Thomas Sankara lui-même refuse ce terme.
Vous avez prononcé tout à l'heure deux mots qui, en tout cas, n'ont jamais été prononcés officiellement. Donc, on ne peut pas les prendre en considération. Vous avez parlé de « parti unique ». Nous n'avons jamais parlé de « parti » ni de « parti unique ». Nous avons parlé d'organisation. Nous avons parlé de pluralité des opinions. Bon, voilà où nous en sommes.
Si le mot parti fait peur, si on a du mal à le prononcer, c'est bien parce que cette organisation dans laquelle se déroulera la conduite de la Révolution va devenir centrale et que beaucoup imaginent qu'au moment de son instauration, quelques têtes vont tomber. Quel peut être le cadre pour écarter certains du pouvoir dont Blaise Compaoré le numéro 2 ? C'est l'idée qui prévaut dans cette ambiance de rumeurs, de divisions et de coups d'État. Chacun des deux chefs croule sous le poids des mises en garde contre l'autre, ce qui contribue à refroidir ou à tiédir le climat entre les deux amis qui ne se fréquentent plus aussi assidûment que par le passé. Il faut dire que les pressions viennent de toutes parts. Jean-Marc Palme, membre de la Révolution, ancien ministre.
1. La manière de gouverner. De plus en plus, Blaise ne semblait pas d'accord. 2. Alors, lorsque Thomas a voulu créer la FISMAT, une force d'intervention commandée par Sigué. Sigué, c'est un ancien légionnaire qui était là et qui était l'homme à tout faire de Thomas. Et c'est la première fois que moi je voyais Blaise s'énerver au CNR, taper du poing sur la table pour dire non. Nous avons déjà suffisamment de problèmes avec les CDR qui commettent toutes sortes de méfaits. Nous n'allons pas en rajouter avec une force qu'on ne contrôle pas et sous le contrôle de qui on sait. Mais Thomas est passé outre. Surtout que dans le même temps, il y a certains ministres et proches de Thomas qui disaient « Nous nous sommes occupés pendant trop longtemps de nos ennemis, il est temps qu'on s'occupe de nos amis. »
En réalité, ce FISMAT, force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, relèverait exclusivement du ministre de l'administration territoriale, Ernest Norma Ouédraogo, fidèle parmi les fidèles de Thomas Sankara. En tant que force de sécurité, cet instrument aurait entre autres pour mission de, je cite, veiller à la préservation des acquis de la Révolution, mais surtout à la sécurité des dirigeants. Un objectif qui fait penser à une brigade anti-putsch et qui apporte de l'eau au moulin de ceux qui estiment que cette force procède de la volonté du PF, du président du FASO, de neutraliser le poids de Blaise Compaoré en ce qui concerne la sécurité de Thomas Sankara lui-même. Autre objectif de divergence, le fougueux officier que l'on veut nommer à la tête de cette force, Vincent Askia Sigué. Véritable personnage de roman d'aventure. Métis, issu d'un père burkinabé, ancien sénateur, et d'une mère française, tête brûlée, tatoué de toutes parts, recherché en France pour deux meurtres, dont un avoué dans un courrier à ses juges. Ancien légionnaire, au caractère trempé, qui n'hésite pas à se battre à la première occasion. Il est depuis la nuit du 4 août 1983 le responsable de la sécurité du président qu'il suit partout comme son ombre. Il lui voue quasiment un culte. C'est d'ailleurs le seul qui l'écoute. Vincent Siguet est une forte tête qui d'ailleurs, lors de l'un de ses passages à Paris, de retour de Pékin, est interpellé par la police de l'air et des frontières, parce qu'il porte dans sa mallette rien de moins qu'un 357 Magnum. Lorsqu'on introduit son nom dans l'ordinateur, il l'identifie comme un criminel en cavale. Mais sur intervention de Ouagadougou et la menace des CDR, les communautés de défense de la Révolution, il ne restera que deux jours avant d'être relâché avec comme explication le passeport diplomatique qu'il porte. C'est à cet homme qui n'a jamais vraiment côtoyé les militaires de la défense populaire, qui le déteste et le redoute, que Thomas Sankara veut confier la formation et ensuite le commandement de la FISMAT. Une idée qui ne plaît pas du tout à Blaise Compaoré, qui ne le porte pas spécialement dans son cœur. Il va pour la première fois très clairement manifester son opposition à ce choix et même au projet de création de cette FISMAT tout court. Est-ce une milice ou une police politique ? Jean-Baptiste Lingani, le ministre de la Défense populaire et commandant en chef des forces armées, n'est pas enthousiaste non plus à cette idée. Mais Thomas Sankara reste persuadé qu'il faut la mettre en place. Un élément de plus qui vient entretenir les idées de coup d'État qui circulent. Ce n'est pas tout. Certains, très insidieusement, jouent sur d'autres cartes moins politiques. Jean-Marc Palme, membre du Comité national de la Révolution.
Thomas était président. Respecté, c'est vrai, de tous. Thomas était sur le mémoire, c'est-à-dire Paul Mossi. Et de plus en plus, il disait qu'il enlevait le mot Mossi, il disait qu'il était Paul. Or, dans l'histoire de ce pays, le royaume Mossi, il est arrivé qu'un Paul s'introduise fraudulemment dans l'histoire et dirige le pays, soit Moronava. Cette parenthèse, les gens ne l'ont jamais oubliée. Et certains hommes politiques de la classe, de l'ancienne classe, n'ont pas manqué de l'utiliser. En reprochant à Blaise comment il peut, en tant que vrai Mouaga, prendre le pouvoir et donner à un peu.
Ernest Norma Ouédraogo, ministre de l'administration territoriale.
Écoutez, il y avait un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 2 voulait devenir numéro 1. Ça, c'est, je crois que c'est humain. Je crois que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc c'est ça.
Non seulement je le lui disais en tant que frère, mais en tant que ministre aussi. Je lui portais toutes les informations qui me parvenaient. Mais il y a aussi des informations venant de l'extérieur. Et la situation était extrêmement dangereuse. Et qu'il soit conscient du danger, là, il n'y a pas de doute à cela. Hein. Et il y a un groupe d'officiers qui est allé voir Thomas pour lui demander de réagir. Il a dit non, lui, il ne réagira pas contre Blaise. Parce que de toute façon, le peuple ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il allait expliquer ? Donc, il a dit qu'il est prêt à subir ce qui peut lui arriver. Mais il n'a jamais dit expressément « il va m'assassiner » ou quelque chose comme ça. Non. Il dit que même s'il va m'assassiner, moi, je ne réagirai pas contre lui. Et vous aussi, je vous interdis de toucher à un seul cheveu de Blaise. Si vous me désobéissez et vous tuez Blaise, c'est moi qui vais vous faire fusiller sur la place de la Révolution et ensuite, je rends ma démission.
Boukari Kabouré, dit le Lion, officier de l'armée et proche de Thomas Sankara.
Au départ, j'ai dit, il faut qu'on évite. Si nous avons choisi un chef, c'est le seul chef qui doit être visible. Alors, si nous voulons tous apparaître, ça veut dire qu'il y aura un problème. Et c'est effectivement ça qui est arrivé. Numéro 2, ça ne devait pas exister. Mais compte tenu des problèmes internes des uns et des autres, alors Blaise a eu des manifestations qui a fait que Thomas était obligé justement de prononcer ce problème de numéro 2 et il l'a nommé en tant que tel, le ramener à Ouagadougou. Bon, dans le gouvernement, alors que c'est trop compliqué. Si on est honnête, on n'a pas besoin de faire trop de bruit. Est-ce que si jamais on laissait carrément le peuple même décider de qui doit être le numéro 2, est-ce que c'était Blaise qu'on allait choisir ?
Paul Sankara, le frère de Thomas.
Beaucoup de personnes et de personnalités sont passées en famille pour demander au père d'intervenir auprès de Thomas parce que c'était la dernière issue pour contrecarrer ce qui se préparait, qui était visible.
En famille où Blaise et Thomas ont toujours vécu comme des frères, c'est également l'inquiétude devant cette rumeur persistante. Blaise Compaoré aussi, de son côté, fait l'objet de pressions diverses, de rumeurs qui lui parviennent selon lesquelles Thomas Sankara veut se débarrasser de lui. Boukari Kabouré, dit le Lion, membre actif et officier sous la Révolution.
On ne se débarrasse pas de Blaise, on prend Blaise. c'est tout. Moi, personnellement, j'avais dit, moi, je vais le prendre. Et Thomas m'a dit, si tu touches à un poil de Blaise là, on ne va plus se parler jusqu'à la fin de nos jours. Parce que nous étions convaincus d'une chose, la droite, c'est-à-dire que les gens qui voulaient nous salir, c'est-à-dire que même la gauche impropre qui était avec nous, les malhonnêtes, qui n'acceptent pas, qui veulent que ce soit eux, au lieu d'accepter la différence, les gens voulaient exploiter une occasion pour dire, ah voilà, c'est entre les amis que les gens ils font, ils sont de se faire entre eux. Donc c'est ça qui a fait que Thomas a préféré, maintenant là, dire que non, on arrête tout. Ce n'est pas question de toucher à Blaise. Mais on en discutait tout le temps.
Mais vous l'aviez envisagé.
Mais moi, j'avais envisagé d'arrêter Blaise là. Parce qu'il veut tuer. Il veut tuer, donc il faut l'arrêter.
Qu'est-ce qui vous faisait dire qu'il va tuer? Aviez-vous des éléments concrets?
Non, des éléments là. Il y a les traces qu'on jetait, on en vérifiait.
Mais il y avait les traces de part et d'autre.
Je ne vous arrête pas. En 2010 là, les gens ils m'ont dit de ne pas trop tirer. Mais c'est ça. Je parle de mon vécu. Les tracts là étaient justement réalisés par qui? Par eux. Donc il y a une zizanie qui était criée tout autour. Thomas est fou, Thomas est drogué, Thomas est ceci, Thomas est bordel, Thomas... Mais tout ça c'est quoi? C'est salir l'homme pour l'isoler.
Dans votre camp aussi, il y avait des tracts.
Non, mais nos tracts étaient quand même censés. Thomas et Blaise ne sont pas comparables, ça je regrette. Thomas n'avait jamais rêvé même trahir un ami. Jamais de la vie. C'est pas Thomas qui le faisait. Ça énervait Thomas. Bon, il voulait même pas qu'on réplique. Moi, personnellement, en tant que chef de sécurité, mais je pensais à la révolution. Donc, si, par exemple, il y a quelqu'un qui veut détruire la révolution et tout est prouvé, moi, je préfère l'arrêter. Parce qu'il y avait la possibilité de buter. Mais nous, on ne voulait pas buter. On l'arrête, bon, on le met à côté. Si jamais les gens manifestent, parce que c'est comme ça, de façon populaire, ben, ils se retirent. Parce qu'au dernier moment, Thomas a refusé ça catégoriquement. Il est mort. Et en tant qu'Africain, tu sais très bien, je jure, si ça tombe, je lui ai proposé, bon, ok, tu es têtu, d'accord. Maintenant, là, je vais te proposer quelque chose. Tu vas démissionner. C'est là alors qu'il m'a dit qu'il est d'accord. Mais il n'a pas eu le temps de le faire.
Il était d'accord pour démissionner?
Pour démissionner.
Pas pour le buter?
Non, non.
Les provocations se multiplient de part et d'autre. Et malgré les tentatives pour y mettre un terme, malgré le sang-froid et la volonté d'apaisement manifestée par le président du Faso, les choses ne s'arrangent pas. Certains acteurs tels que Jonas Sommet, le président du Bureau national des étudiants, dénoncent dans leur discours les opportunistes et les contre-révolutionnaires qui se sont infiltrés au CNR, le Conseil national de la Révolution. Thomas Sankara, qui demande une réaction de Blaise Compaoré à ses propos, ne la voyant pas venir, excédé par ce mutisme, se lève et claque la porte du conseil des cabinets avant de rappeler son ami un peu plus tard le soir pour s'excuser de s'être ainsi emporté. En réalité, à ce moment-là, les choses sont suffisamment tendues pour qu'il se sente comme un cycliste qui n'a plus d'autre choix que de continuer de pédaler pour ne pas tomber. Fidèle Kientega, conseiller diplomatique et chef de département des affaires politiques de Thomas Sankara.
Quelque temps avant, a fait une lettre qu'il m'a remise avec Blaise Compaoré d'aller remettre au président Sassou Nguesso. Parce qu'il y avait un certain capitaine Pierre Anga qui s'est rebellé, qui est allé dans le maquis. Et il nous a dit, allez vite, et dites-lui qu'il faut qu'on évite de donner cette image dramatique, burlesque de l'Afrique où les gens passent le temps à des règlements de compte entre les acteurs de la révolution. Et qu'il offrait lui-même sa médiation pour aller voir le capitaine Pierre Anga s'il le faut, pour qu'il revienne et qu'ils peuvent toujours s'entendre. Et nous y sommes allés, c'était quelques jours avant le 15 octobre 87. D'ailleurs, à la sortie de ça, Blaise Compaoré, quand les journalistes nous ont approchés, a dit des choses évasives, sur lesquelles je l'ai interrogé après. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Il dit, lui, il ne sait pas pourquoi le gars s'est rebellé, qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il se rebelle, et donc il n'a pas venu prendre parti ici. Pour quelqu'un qui est porteur d'un message, il a dit, il avait déjà son chronogramme, etc., mais moi, je ne le savais pas.
Comment mettre fin à cette escalade qui menace la révolution burkinabé? Comment réconcilier les deux amis, les pères, les leaders historiques de ce mouvement qui a changé le visage de leur pays? Qui peut le faire? Est-ce trop tard? La suite dans une dizaine de minutes, dans Archives d'Afrique, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Les Archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Les masses jugeront au résultat. Peu importe qui a proposé quoi, qui a dit quoi, l'essentiel est qu'au résultat et sur le terrain, le peuple, lui, soit heureux. Il n'y a pas de combat isolé, il n'y a pas non plus de lutte individuelle pour les succès personnels. Ce sont des succès collectifs.
En cette seconde moitié de l'année 1987, si le capitaine Thomas Sankara évoque l'idée d'une pause pour l'an 5 de la Révolution, c'est parce que le rythme auquel elle a été menée semble avoir suscité de part et d'autre des contrariétés, des aigreurs, des incompréhensions et des divisions. Divisions qui touchent désormais le sommet même de l'État. À Ouagadougou, rien ne va plus. Entre le président du Faso et son numéro 2, Blaise Compaoré, la confiance semble rompue, même si en public, il continue de faire bonne figure, d'afficher une certaine sérénité. Les rumeurs de coup d'État contre le numéro 1 et le plan du président pour écarter son ami se multiplient. Un peu comme dans un film western, on guette qui va tirer le premier. Dans les deux camps, on se protège, on se prépare, on s'organise. Seulement, le président du Faso reste persuadé qu'avec la pause bilan adoptée, les esprits vont s'apaiser et le calme va revenir. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara.
Après avoir mené à un train assez rapide des opérations sur le plan économique, sur le plan social, il nous apparaît maintenant qu'il est temps de nous organiser politiquement. Parce que la confiance est créée.
En gros, il s'agit de faire une pause dans la révolution parce que si la confiance est créée au sein du peuple, si les Burkinabés croient en la capacité de la révolution d'apporter un changement, la confiance entre ses leaders, elle, est en berne. On vit dans un climat de méfiance. Les tracts et les rumeurs ont eu raison de l'amitié des deux leaders historiques. Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou.
Et même qu'on en est arrivé à introduire des éléments ethnicistes dedans, en disant oui, lui, Blaise Compaoré, le Moussi, qui est chose, comment peut-il laisser un peuple venir lui ravir la vedette, etc. Donc c'était devenu véritablement malsain à un moment donné. Et donc, il était certain que la rupture était consommée.
Malgré cela, Thomas affiche une certaine confiance, une certaine sérénité devant cette situation. Un peu comme s'il était persuadé que tout allait rentrer dans l'ordre. Surtout que, comme à chaque anniversaire de la Révolution, le gouvernement a été dissous. Mais Thomas, qui a décidé de se détacher des tâches gouvernementales, a demandé à son ami Blaise Compaoré d'assurer la composition du gouvernement. Valère Sommet et Bazide Guissou, proches du président du Faso, sont écartés. En réalité, les positions sont maintenant inconciliables. Jean Ziegler, député européen sympathisant de la Révolution.
On a parlé du Che Guevara. Et j'ai dit, mais écoutez, le 8 octobre prochain, c'est le 20e anniversaire de l'assassinat du Che Guevara. Tout à coup, ça je me souviens, comme si c'était hier, il me regardait, il me dit, il est mort à 39 ans. Est-ce que moi, comme le Che, j'arriverai à 39 ans?
Alouna Traoré, membre du Conseil national de la Révolution.
Le 8 octobre 87, le PF fait diffuser la lettre que le Che avait adressée au commandant et au camarade Fidel Castro. Donc, il ne pouvait plus continuer avec Fidel et il est toujours d'esprit et de cœur avec lui. Pourquoi à ce moment précis, une telle lettre a diffusé ?
En ce début du mois d'octobre, le président du Faso est accaparé par les délégués venus du monde entier pour participer au forum international contre l'apartheid. Ils sont venus de tous les coins du monde. Sénégalais, Gabonais, Maliens et autres. Même le fils du Che Guevara a effectué le déplacement. Il est venu pour inaugurer une avenue qui porte le nom de son père. Le samedi 10 octobre 1987, Thomas quitte sa résidence pour retrouver Blaise à la Villa Côte d'Ivoire, au conseil de l'entente où le capitaine se retrouve lorsque son épouse est absente. Ils vont discuter jusque tard ce soir-là, comme au bon vieux temps. Ils vont même revenir ensemble à la résidence présidentielle où ils poursuivent leur échange. Tout semble aller mieux. Mais visiblement, ce n'était pas le programme initial. Fidel Kentega, conseiller diplomatique et chef du département affaires politiques de Thomas Sankara.
Je me souviens d'un des gardes du corps de Thomas qui m'a dit il y a eu une tentative. Vous savez, il y avait une barrière devant ce qu'on appelle aujourd'hui le ministère des Finances. Et c'était un checkpoint quand on voulait aller à la présidence ou au palais. Il fallait s'arrêter là-bas, montrer patte blanche avant de continuer. Et qu'on sait aussi que pratiquement chaque soir, le président sortait pour aller rendre visite à sa famille. Le garde du corps, en ce moment, m'a dit Blaise avait déjà préparé des gens qui devaient venir la nuit neutraliser les deux ou trois gars qui étaient assis là. Et à son retour, donc, de sortie la nuit, on faisait un genre incident de tir et puis on l'exécutait. Et eux, ils s'en sont aperçus. et ils ont doublé la garde. Effectivement, les gars qui devaient venir du Conseil de l'Entente sont venus. Ils ont trouvé qu'il y avait plus de monde que d'habitude. Ils les ont salués tous. Ah oui, ça va, vigilance, etc. Ils sont repartis. Donc, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était préparé de longue date et dont il attendait seulement la mise en œuvre.
Mais cette soirée du 10 octobre 1987, passée ensemble à discuter comme au bon vieux temps, a visiblement redonné confiance à Thomas Sankara, qui, le lendemain, est en pleine forme pour l'inauguration de la conférence sur l'apartheid. Mais en réalité, de part et d'autre, on affûte les armes. Et la rhétorique révolutionnaire sert à diviser et à se faire une place. Il est aussi beaucoup question de contacts secrets, des appels du pied du président Oufuot Boigny de Côte d'Ivoire, et même de Muammar Kadhafi à Blaise Compaoré, pour se débarrasser de Thomas Sankara. Et puis Charles Taylor et ses libériens qui traînent à Ouagadougou. Difficile à ce moment-là de discerner la rumeur de la réalité. Mais le président du Faso se veut toujours rassurant. Il semble prendre toutes ces informations un peu à la légère. Marie, la sœur de Thomas Sankara.
Thomas est venu. Quand il est arrivé, il a démenti. Il a dit non, de ne pas nous inquiéter qu'il n'y a rien. Que même lui couché là, personne n'ose monter sur lui.
Mercredi 14 octobre 1987. C'est Thomas Sankara qui préside le Conseil des ministres. C'est le numéro 2 qui le fait depuis le remaniement ministériel opéré à l'anniversaire de la Révolution. Mais Blaise Compaoré est absent aujourd'hui. Il est à Pau, la ville de ses paracommandos. En réalité, il n'a pas voulu assister à ce conseil où va être entériné le projet contre lequel il s'oppose. La création de la FISMAT, la force d'intervention spéciale du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité que va diriger le fameux Vincent Askia-Sigué. Les textes vont naturellement être adoptés au grand bonheur du ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, Ernest Nomma Ouédraogo, qui, content d'y être parvenu, lâche cette phrase pleine de sous-entendus. Pendant longtemps, nous nous sommes occupés de nos ennemis. Nous allons maintenant nous occuper de nos amis. Avant même la fin du Conseil des ministres, une dispute éclate entre les soldats qui assurent la sécurité du Conseil de l'Entente. Les raisons de ce clash divergent selon les personnes. Mais toujours est-il qu'il oppose d'un côté les partisans, les éléments de la garde présidentielle et de la BIA favorables au président Thomas Sankara, et de l'autre, les paracommandos de Pau, fidèles de Blaise Compaoré. Ce soir, une autre rumeur va naître. Une rumeur selon laquelle un complot en préparation contre Blaise Compaoré est en cours. Elle est prévue selon cette information pour le 15, c'est-à-dire le lendemain. On l'a baptisée « Opération de 20 heures ». Elle vise à éliminer les autres leaders historiques de la Révolution, c'est-à-dire Blaise Compaoré, Henri Zongo et le commandant Lengani. Le chef de détachement du Conseil de l'Entente qui ne parvient pas à calmer les esprits des soldats qui se sont disputés au sein du Conseil de l'Entente décide de convoquer pour le lendemain jeudi 15 octobre une réunion qui rassemblera les différents corps représentés par les gradés dans la garde. Seulement, cette réunion ne se tiendra finalement pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que le 15 est la date relève de la garde du Conseil. Les uns cèdent la place à ceux plus frais qui arrivent de Kudougou et de Pau. Ensuite parce que ce 15 octobre correspond à la date de la mise en place de la FISMAT, la force que va commander Vincent Sigué officialisée la veille. Il attend justement sa première livraison d'armes, notamment celle promise par Muammar Kadhafi. Le même jour, le chef de corps de l'ETIR, l'escadron de transport et d'intervention rapide, basé à Kamboincé, c'est-à-dire à 12 km environ de Ouagadougou, le lieutenant Michel Kouama, fidèle à Thomas Sankara, passe commande de 8 batteries. Il n'en faut pas plus pour que le camp d'en face prépare la riposte. Il ne faut pas laisser marcher sur eux, estiment certains. Pour eux, cette réunion dite de 20 heures n'a pour objectif que d'en finir avec Blaise Compaoré, de le liquider. Commandant Abdou Salam Kabore, membre du CNR, le Conseil National de la Révolution.
Baliverne, c'est des inepties que les gens y racontent. J'étais membre de l'OMR, j'étais membre du Conseil National de la Révolution et j'étais au gouvernement. Il n'a jamais été question de cette réunion de 20
heures. Ernest Nomma Ouédraogo, ministre de la Sécurité et de l'Administration Territoriale.
C'est sûr qu'à 20 heures, il y avait une réunion programmée. Mais c'était pour débattre justement des problèmes. Bon, peut-être que la sanction serait venue plus tard, mais après le débat.
Boukari Kabore, dit le Lion.
Il y avait la confusion totale. On dit que nous, on était en alerte et que ce sont les unités-là qui sont là pour assurer la sécurité de ce moment et tout ça. Que nous, on était en alerte pour faire un coup. Le 15 au soir. Quelle alerte? Est-ce qu'un président fait un coup d'État? Le premier président alerte des gens?
En réalité, une réunion était prévue pour 20h ce 15 octobre 1987. Au cours de cette rencontre, on devait en finir avec les militaires récalcitrants accusés d'avoir animé la guerre des tracts, les neutraliser, obtenir leur démission de l'OCB, l'organisation communiste burkinabé. Le capitaine Blaise Compaoré, mis en minorité au sein de l'OMR, l'Organisation Militaire Révolutionnaire, et du Conseil National de la Révolution, devait accepter de rentrer dans les rangs. Ce qui signifie que cette réunion avait pour objectif de remettre Blaise Compaoré au pas.
Nous, on était sûr qu'on voulait buter Thomas. Donc, en matière de sécurité, il était question que Thomas ne sorte pas de chez lui. Parce qu'il y avait l'anniversaire de la GNR qui est une création pure et simple de Thomas. Garde nationale et de la Révolution. Donc, il a l'habitude justement de participer au cérémonial. Nous, on était inquiets là parce qu'on pouvait le buter là-bas.
Boukari Kabore, dit le lion.
Nous, on avait une réunion à 20h. Mais à 15h, il y avait justement la réunion du secrétariat du CNR. La toute première réunion.
Alouna Traoré devait lui aussi assister à cette réunion de 15h.
J'ai été envoyé au Bénin en mission spéciale en vue de recueillir des documents pour la création du parti qui devait avoir lieu. Je suis revenu le 14 soir. Le lendemain 15, tous les jeudis, nous avions rencontre. Un comité spécial chargé de réfléchir sur la création du nouveau parti. Et donc, naturellement, à 15h, 16h, nous étions au conseil, nous attendions l'arrivée du PF. Oui, nous l'avions devancé avec le regretté Paulin Bamouni.
T-shirt blanc et pantalon de jogging rouge, le président, réputé pour ses retards, prend place à côté du chauffeur dans une Peugeot 205 noire. C'est jeudi, jour du sport de masse. Il souhaite, après sa réunion, qui devait avoir commencé depuis une heure, aller comme c'est la tradition, ou plutôt la règle, faire son sport. Il est déjà plus de 16h20 et la réunion devait avoir commencé à 15h. Les autres sont déjà sur place et l'attendent. Le président et ses gardes du corps, dans cette tenue, et pour aller pratiquer leur sport de masse, ne sont armés que de leurs pistolets automatiques. Boukari Kabore, dit le lion.
C'était un jeudi. Le type est sorti. Moi, j'avais 45 éléments qui étaient là pour la sécurité. Il y avait la sécurité d'une manière générale et la sécurité rapprochée du président. Comme c'était corsé et comme la zizanie était criée, à une certaine période, on a défendu le mixage justement de la sécurité. C'est-à-dire, la sécurité rapprochée là était carrément détachée des autres. C'est-à-dire, pas de contact avec justement ceux du conseil. Le palais est là, avec le président à côté, la garde rapprochée, personne ne s'en mêle. Donc c'était comme ça. Quand le type est quitté, aller maintenant dans le pêle-mêle. Qu'est-ce qui était contrôlable?
Au conseil de l'entente, lorsqu'il arrive finalement à 16h30, les membres du cabinet spécial sont eux aussi en tenue de sport. La 205, suivie par quatre de ses gardes du corps, se garde dans la cour attenant la salle de réunion. Les chauffeurs, après avoir garé leur véhicule, sortent et s'installent à l'ombre des grands arbres. À 16h35, le président prend place au bout de la table de réunion qui forme un U. Alouna Traoré, qui vient comme on l'a entendu à l'instant du Bénin, en mission d'information pour la création du parti, commence son rapport. Mais il est interrompu par un bruit qui vient de la haute. Un bruit de voiture qui se rapproche. Le président du Faso, agacé, se demande ce que c'est. Le véhicule s'arrête devant le portail. Et aussitôt, c'est le vacarme des tirs de Kalachnikov. Alouna Traoré a vécu cette scène qui va marquer un tournant décisif dans l'histoire de la jeune révolution burkinabé. Mais puisqu'il ne nous reste plus suffisamment de temps dans cette émission aujourd'hui pour raconter dans le détail ce qui s'est passé ce 15 octobre 1987 et lever un pan de voile sur cette scène qui suscite tant de fantasmes, tant de rumeurs, qui fait l'objet de tant de scénarii, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Nous écouterons l'unique témoin vivant de cette tuerie et le témoignage des membres de la famille. Nous écouterons aussi, 30 ans après, le début de cette aventure humaine qui a donné un nom à ce pays du Sahel, le regard, la lecture à la fois des acteurs de cette révolution, mais également des jeunes qui n'ont pas connu Thomas Sankara. Rendez-vous donc pour la fin de cette série. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site du RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook ou encore nous rejoindre sur archivesdafrique.com. En un mot et sans apostrophe, archives au pluriel bien sûr. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite et la fin de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Bonne fin de week-end et à très vite.
pas pour annoncer l'ensemble de Maram. Yari, Inya, Aziz, Zambayala.